Et je vais passer maintenant, plus rapidement, au cas de Casablanca, et notamment au quartier des Carrières Centrales. Alors justement, vu que les manifestations de décembre 52 ont fait événement à l'époque, comme disait Halifax, il n'y a pas de problème pour parler de cet événement de nos jours, hein, ce qui assure au quartier donc une certaine visibilité. Mais en fait, cette histoire est assez compliquée, et donc je vais essayer de montrer à quel point donc ce rapport au passé de nos jours, ce rapport au passé colonial, est filtré à travers le rapport au passé post-colonial. Donc c'est ça que je vais essayer de voir un petit peu pour les Carrières Centrales. Donc je vais passer rapidement sur l'histoire de la production, de la formation du quartier. Voilà, il y a un ouvrage d'histoire là-dessus désormais, donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Alors la différence fondamentale entre Casablanca et Alger, c'est qu'à Casablanca, on a procédé au regroupement des micro-bidonvilles dans les années 30. Donc c'est la municipalité qui a tout fait pour créer deux grands bidonvilles, donc celui des Carrières Centrales et l'autre Ben Messick. Voilà. Et donc la configuration est tout à fait différente par rapport à Alger. Hein. Et donc dans les années 30, à Alger, c'est le laisser-faire total. Hein. En fait, c'est l'interventionnisme municipal à Casablanca. Voilà. C'est très différent parce qu'il y a une logique ségrégationniste encore plus forte à Casablanca, comme on le sait. Voilà. Et donc le quartier suit un petit peu l'histoire économique de la ville. Voilà. Donc l'installation autour des années 1910, les premières baraques. On va délocaliser deux fois le quartier, les baraques, voilà. Et donc ce n'est qu'à la fin des années 30 hein, que le bidonville arrive dans le quartier où il va rester. Voilà. Donc il y a des photos où on peut voir des gens qui portent leur baraque, voilà, à 4, à 6, à 8. Voilà. Voilà. Et parce qu'on avait besoin de plus de terrain pour les quartiers industriels. Hein. Donc c'est ça l'un des enjeux principaux hein, derrière cette histoire. Et en fait, ce qui est intéressant avec la montée, entre guillemets, des Carrières Centrales, c'est qu'au départ, donc, le bidonville de Ben Messick était plus grand. Voilà. C'était sans doute le premier bidonville très connu, hein, celui de Ben Messick, parce qu'on l'appelait le bidonville B majuscule. Est-ce que le terme bidonville en français provient du bidonville de Ben Messick quand il s'appelait bidonville? Bonne question. C'est un sujet très controversé. Voilà. Celui de l'histoire du terme bidonville en français. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Mais le quartier de Ben Messick était très connu donc avant 52, et plus connu, je dirais, que les Carrières Centrales, notamment en raison des événements de 47. 47, c'est le coup des Sénégalais. Voilà. Donc les Sénégalais sont dans le quartier des Sénégalais, dans les tirailleurs sénégalais. Sont dans le bidonville de Ben Messick, dans le quartier des prostituées. Il y a les rixes. Les Sénégalais rentrent dans leur caserne. Ils peuvent en ressortir avec leurs armes. Ils commencent à tirer. Ils tuent plusieurs centaines de Casablancais, pas seulement à Ben Messick, avant voilà, d'être renvoyés dans leur caserne. Donc ça, c'est le coup des Sénégalais, qui scelle forcément la mauvaise image des Sénégalais à Casablanca. Donc, tout le monde a très peur des Sénégalais après 47. Et donc ce n'est qu'avec les événements de 52 hein, que les Carrières Centrales, le bidonville est devenu donc, le bidonville le plus connu de Casablanca. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est devenu le fief du parti de l'Istiqlal. Voilà, c'est ça, le parti de l'Istiqlal a travaillé, entre guillemets, ce quartier, alors que Ben Messick est resté le fief de l'autre mouvement nationaliste principal, le PDI. Voilà. Et donc c'est ça, l'histoire politique est essentielle dans cette histoire. Et à travers notamment les syndicats, l'Istiklal arrive à politiser une bonne partie de la population des carrières centrales, donc qui a une population ouvrière extrêmement importante. Donc ce sont des gens, hommes et femmes, qui travaillent dans les usines d'à côté. Voilà. Il y a tout un quartier en dur à partir des années 40. Il y a tout un quartier en dur juste à côté des baraques, où il y a beaucoup de militants nationalistes et syndicaux, hein, ce qui facilite le contact entre le bidonville baraque et puis non seulement les usines, mais aussi le centre-ville. Voilà. Et donc en fait, Casablanca devient un peu comme Alger, mais pas de la même façon, une ville avec des centres de nationalisme, de multiples centres de nationalisme. Voilà, donc Casablanca, donc ancienne Médina, entre guillemets, voilà, ce qu'appellent les Français ancienne Médina, ce qui était forcément la Médina, hein, l'ancienne Médina, la nouvelle Médina, l'appellation française, carrière centrale, notamment. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur tous ces différents vecteurs de politisation, parce que le temps est limité, et j'en ai parlé dans mon article dans la revue Genèse. Mais l'important, c'est de comprendre le contexte donc, de ces manifestations, qui interviennent juste après donc, l'assassinat à Tunis du syndicaliste nationaliste Farhat Hachette. Voilà. Donc il y a des grèves de solidarité, hein, donc on est dans le transnational. On est aussi dans le micro local parce que ces grèves, ces manifestations sont interdites. Leur interdiction provoque une répression extrêmement importante, répression qui débute dans le quartier des carrières centrales. Donc on ne peut pas contester au quartier la paternité de ces événements, hein, parce que la plupart des morts a eu lieu dans le quartier ou juste à proximité. Donc je passe très rapidement sur ces événements. Hein. Mais il y a eu, enfin c'est toujours, donc c'est le massacre colonial au bilan inconnu. Voilà. Hein. Donc plusieurs centaines, sans doute. Voilà. Donc c'est ça qui mène forcément au départ des quelques Européens qui habitaient à proximité du bidonville, qui radicalise forcément les habitants du quartier, hein, qui ont porté souvent les corps à la mosquée, voilà, qui ont participé à de multiples enterrements, qui ont par la suite essayé de manifester en centre-ville, et qui se sont fait tirer dessus à nouveau hein, le lendemain, le 8 décembre, le 8 décembre 52, voilà. Donc c'est une tremblement de terre dans le quartier, comme l'a décrit l'un des anciens participants. Voilà. Tremblement de terre dans le quartier. Voilà. Et donc la radicalisation du quartier, ça viendra tout de suite, ça viendra également l'année suivante avec l'exil du sultan par l'État colonial. Alors forcément, le niveau très élevé de répression, comment l'expliquer? C'est parce que les habitants, ce sont les classes dangereuses. Hein, donc il y a la peur des classes dangereuses. Et dans ce cas précis, on n'est plus en banlieue parisienne, on est à Casablanca, donc il y a tous les stéréotypes coloniaux également. Donc il y a une sorte de synthèse de différents types de stéréotypes qui font que les habitants sont les cibles très rapidement voilà, de tirs. Mais et donc tout de suite, cette répression sera donc commémorée par l'Istiklal. Voilà. Mais en fait, pour l'historien, toute cette période qui va de 52 jusqu'à l'indépendance en 56 est tout de même compliquée. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que au Maroc, donc la date officielle du début de la résistance, c'est de d'août 53. Donc ces événements interviennent avant. Voilà, donc il y a ça, c'est le premier problème. Donc, quel est le statut de 52 par rapport à cette chronologie? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a eu donc, d'autres massacres dans le quartier avant l'indépendance, dont on parle très peu. Voilà, donc surfocalisation sur décembre 52. Voilà. En même temps, décembre 52, c'est bien parce qu'on peut faire sortir donc Casablanca de son image de ville coloniale, ville créée par les Européens, voilà. Signe de résistance, voilà, face à la domination coloniale. Par la suite, la ville emblématique de la contestation, que ce soit contre les Français, que ce soit contre l'État marocain indépendant. Hein. Donc, c'est très compliqué sur ce plan-là. Hein. Forcément, célébrer les carrières centrales sert implicitement hein, à cacher le rôle de Bamessik, de la nouvelle Médina. Comme nous l'avons déjà dit, donc Bamessik était plus acquis au PDI qu'à l'Istiklal. Toutefois, après l'été 53, donc à partir du début de la résistance armée, officielle en tout cas, ces divisions, qui n'ont jamais été aussi sanglantes que celles entre le FLN et le MNA, sont moins pertinentes et des cellules de la résistance armée se forment avec des gens de différents quartiers et de différentes appartenances politiques. Il y a eu beaucoup moins de règlements de comptes entre militants hein, à Casablanca qu'à Alger. Hein. Donc les assassinats opérés par la résistance à Casablanca, c'était surtout contre les informateurs et les gens qui jouaient le jeu hein, de l'État colonial. Voilà. Alors, ce qui pose problème sur le quartier, hein, pour des anciens militants, c'est que, en fait, si on dit que la résistance avait commencé en 1953, certains avaient déjà commencé à faire de la résistance armée bien avant. Voilà. D'autres avaient pris la décision de mener une résistance armée suite en janvier 1953, juste après hein, les manifestations et la répression de décembre 52, hein, donc août 53, ne facilite pas forcément la compréhension de cette micro-période tout à la fin de l'époque coloniale. Il faut dire également que sur le plan spatial, ce qu'on appelle maintenant l'ancienne Médina, donc le centre historique de Casablanca, fait pourtant de la résistance, notamment en raison de la mémoire en diaspora hein, des Juifs qui ont dû quitter le Maroc, mais gardent en mémoire l'importance de leur ancienne présence dans l'ancienne Médina. Donc, les Juifs étaient majoritaires dans l'ancienne Médina en 49, par exemple. Voilà, donc. Autre vecteur de la mémoire de décembre 52, c'est donc l'UTM, donc la Confédération qui a repris justement l'UGSCM. Donc les syndicats ont été très impliqués dans cette histoire de politisation du quartier. Mais là, on célèbre plutôt donc, une tuerie qui a eu lieu autour de la rue Lassalle en centre-ville au moment de décembre 52. Donc ce n'est pas forcément lié au quartier hein, des carrières centrales. Alors, ce qu'il faut dire également, donc ça c'est, je pense, la dernière partie de mon intervention, ce qu'il faut dire, c'est ce qui s'est passé donc, depuis les années 50. Voilà. Donc, comment parler de ce passé, de la fin de la période coloniale, dans un contexte où, dans les années 60, 70 et 80, il y a eu également une très forte répression dans le quartier, hein, des carrières centrales. Donc ce changement de contexte, notamment à partir de 2004, va permettre beaucoup de retours sur le passé colonial, mais ce passé colonial est subordonné, en fait, à l'époque post-coloniale. Voilà, c'est ça ce que je vais dire. C'est le résumé, voilà. Donc il y a un maillage associatif très dense sur place. Et donc à partir de 2004, l'idée c'est de faire le retour sur les années de plomb. Voilà. Le quartier a été très impliqué dans cette histoire. Il y a eu un commissariat construit au début des années 50, donc par des Français, qui a servi comme lieu de détention. Voilà. Il y a pas mal d'anciens des résidents du quartier de nos jours qui ont été emprisonnés dans ce commissariat où ils ont subi donc, les tortures, les conditions de détention extrêmement dures. Et c'est justement donc, à travers la mise en place de l'instance Équité et Réconciliation en 2004 qu'une nouvelle possibilité s'est présentée pour cultiver le passé de carrière centrale. Voilà. Et on l'a fait notamment à travers une association, Initiative Urbaine, voilà, qui a été créée par un enfant du quartier, hein, et qui a produit notamment cette brochure. Hein, voilà. Et ce qui est intéressant dans cette brochure, qui est disponible, je pense, en ligne, voilà, donc mémoire et dignité, donc mémoire et citoyenneté, mémoire et dignité, donc ce sont des termes qui reviennent très souvent dans ce discours. Hein. Voilà, vous allez voir juste rapidement qu'on va commencer par l'histoire, voilà, donc l'histoire, enfin des bidonvilles, pas forcément des bidonvilles de carrières, mais des bidonvilles, et ensuite donc les premières résorptions des carrières centrales dans les années 40. Voilà, et donc on donne la parole, excusez-moi, donc aux résidentes, aux résidents. Voilà, vous avez une version en français et une version en arabe. Voilà, voilà. Donc c'est ça, c'est intéressant la manière dont c'est présenté. Voilà, voilà. Certaines, donc les usines, donc tout le patrimoine industriel qui jouxte le quartier, hein, qui jouxte le quartier. Hein, voilà. Et donc et très rapidement. En fait, on va passer à une époque plus récente, hein, et on va parler justement de la répression, notamment des années 80. Voilà, donc, et donc les deux répressions, à la fois coloniales et post-coloniales, sont rapprochées, donc figurent dans le même document, mais forcément, ces deux répressions peuvent figurer dans les mêmes témoignages, si on a affaire à des hommes et des femmes de 70, 80 ans. Hein, donc c'est ça qui est intéressant pour l'historien, hein, donc il y a des gens qui ont vécu ces deux époques, hein, enfin, plusieurs époques, voilà, qui sont impliqués dans ces projets, voilà, très impliqués même. Donc j'ai été un peu long, voilà, donc je ne vais pas développer trop longtemps ce que j'allais dire sur les carrières centrales. Mais, donc forcément, donc, dans cette coproduction, hein, sur le papier, c'est une coproduction entre l'État et le niveau local, hein, sur le plan de la mémoire. Mais donc, en donnant de l'espace au projet mémoriel, il y a bien évidemment la possibilité de mettre en avant une image du quartier comme lieu de toutes les contestations. Hein, donc, les habitants profitent de cet espace politique pour essayer de donner, enfin, de célébrer un petit peu cette image d'un quartier qui conteste. Voilà. Donc j'ai l'impression, enfin c'est mon impression, que l'État n'arrive pas à gérer totalement ce qu'on voudrait essayer de faire avec ce projet sur le plan de la réconciliation, parce que c'est l'image critique du pouvoir qui ressort lors de ces différents projets. Voilà, donc le quartier qui conteste, c'est un peu ça, l'image qui revient dans les témoignages, hein, parmi les habitants, parce que c'est une image qui est valorisable à leurs yeux. Hein, voilà, donc c'est à la fois, on lit ça au social, hein, donc c'est le social et le politique qu'on met ensemble. Et c'est dans ce contexte donc, de sollicitation des témoignages qu'on peut avoir, l'historien peut avoir donc, des éléments importants sur l'histoire sociale du quartier. À Casablanca, comme à Marchedine, donc il y a le thème de la solidarité qui revient très souvent. Voilà. Donc, solidarité, mais qui ne tombe pas toujours dans la nostalgie. Hein, parce que, bon, il y a toujours ce risque. Parce qu'à l'époque, pour les deux bidonvilles, il y a eu une très forte exploitation, hein, des habitants par d'autres Algériens ou Marocains. Donc il ne faut pas nier l'exploitation qu'il y a eu sur le quartier. Hein. Mais en même temps, les conditions matérielles ont été extrêmement difficiles et l'entraide a beaucoup joué. Mais la solidarité, ouais, évoquée également pour parler de ces Européens, voilà, qui ont aidé les gens du quartier. Voilà. Et donc, en fait, sur le plan de l'histoire, c'est extrêmement intéressant. Hein, alors que d'autres récits sur le passé peuvent avoir tendance à gommer Hein, toutes ces parties-là de coexistence, surtout à Alger, hein, coexistence entre Algériens, musulmans et Européens. Dans les récits, il y a des noms d'Européens qui reviennent très fréquemment. Hein. Le regard sur le passé est extrêmement nuancé. Donc les Européens qui ont protégé les enfants contre des militants OAS en les hébergeant dans leur appartement, par exemple. Hein, ça, c'est un exemple qui me revient à l'esprit. Voilà. Donc c'est un regard assez nuancé. Et en même temps, la solidarité, donc, c'est évoquer donc, les problèmes matériels sur place. Ce n'est pas pour dire que c'était une sorte d'âge d'or. Hein. Forcément, on va parler des rats. Hein, notamment. Hein. Donc c'est ça qui a fait peur à beaucoup d'enfants. Voilà. Le plus intéressant, c'est d'avoir la vie donc des gens qui sont arrivés, enfants ou adolescents, dans le quartier, hein, qui ont donc connu donc, un autre habitat ailleurs, notamment dans l'intérieur, forcément. Et là, donc, ils peuvent faire une sorte de comparaison, ils peuvent décrire leur première réaction en arrivant dans le bidonville. Donc ça, c'est passionnant parce qu'ils peuvent comparer l'avant et l'après, l'arrivée en bidonville. Voilà. Donc en fait, j'ai passé assez rapidement sur les carrières centrales, on pourra peut-être y revenir. Je dirais, pour conclure, que ce que retient la mémoire sociale de ces deux quartiers, c'est donc assez nuancé. C'est beaucoup plus nuancé que le discours mémoriel qui peut être, qui existe sur le plan national. Et donc il faut aller sur le terrain. Voilà. Et donc pour l'historien, il n'y a absolument pas de conflit entre histoire et mémoire. Donc les témoignages sont extrêmement précieux pour comprendre à la fois l'époque coloniale et l'époque depuis. Voilà.